France Culture.
Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient, j'ai le plaisir de recevoir Élise Bogossian, venue, entre autres, pour nous présenter son ouvrage, un magnifique récit sur la trace de sa famille, des Arméniens de l'Empire ottoman, originaires de Sivas, l'ancienne Sébaste de l'Antiquité, sise au cœur du plateau anatolien. Mais encore plus pour évoquer votre engagement par le biais d'une ONG que vous avez créée en 2014 et qui soigne et guérit dans les zones de conflit. Vous êtes la preuve que la foi et le cœur peuvent soulever des montagnes, que nous pouvons sortir de nos préoccupations quotidiennes pour nous intéresser au monde, aux autres et surtout aider. Élise Kerr, survivre après la guerre, c'est là où vous intervenez, pour les orphelins, les rescapés, qui doivent se reconstruire après la violence. Les familles édits violées, les femmes tout court, avons-nous besoin de leur donner une étiquette ethnique? Je ne le crois pas. Car votre association est apolitique et laïque, écrivez-vous. Vous parlez de dignité des populations. Bonjour Élise.
Bonjour Sébastien.
Une première question, pourquoi ce livre, Les Sacrifiés, au cœur de la tragédie arménienne?
Je ne pensais pas que j'écrirais un jour sur mon pays, sur mon peuple et encore moins sur ma famille. Jamais j'aurais pensé le faire un jour, mais je pense que c'est arrivé à un moment, je ne vais pas dire de désespoir, mais après la dernière épuration ethnique des Arméniens, lorsque nous avons complètement perdu le Haut-Karabakh, il y a eu l'Artsar pour nous, donc il y a eu une espèce de blessure qui s'est réouverte pour tous les Arméniens de la diaspora. Et lorsque ce drame est arrivé en Arménie et que nous avons perdu l'Artsar, j'ai continué bien sûr à travailler comme je le fais depuis le début, mais il y avait une espèce une tristesse, un désespoir en nous et en moi qui fait que effectivement quand on m'a proposé d'écrire ce livre, cette fois-ci j'ai dit oui.
Vous êtes thérapeute, vous vivez à Paris, vous voyagez beaucoup. Actuellement avec l'Arménie, parce qu'on sent depuis 2020, depuis les premiers combats jusqu'en 2023, que vous êtes particulièrement sensible aux enfants d'Arménie. Mais bien avant cela, j'évoquais la date de 2014, où vous avez décidé de créer cette fondation. Comment s'est fait le basculement entre cette vie que vous aviez en France, à Paris, où vous êtes toujours, bien entendu, et cet engagement?
J'avais et j'ai encore une vie très confortable, je n'ai manqué de rien, j'ai eu la chance de faire des études longues, je suis allée en Chine, en Asie, au Vietnam, j'ai passé ma thèse là-bas et puis je me suis spécialisée dans la prise en charge de la douleur, j'ai travaillé beaucoup à l'hôpital, j'ai enseigné à l'université, j'ai ouvert mon cabinet d'acupuncture. Et puis, j'ai construit ma vie, ma famille, tout à Paris. Et c'est vrai que, voilà, avec beaucoup de satisfaction aussi, de pouvoir, comme ça, quand on est enfant d'immigrés, de pouvoir cocher toutes les cases de l'intégration réussie, de faire plaisir à sa famille, de rattraper peut-être inconsciemment une espèce de paradis perdu pour eux, en leur montrant que leurs enfants ont réussi. Voilà, j'étais arrivée à ce cap-là de ma vie au moment où la guerre en Syrie a démarré et où, à travers les écrans, les images qui me parvenaient, je voyais à Alep et j'imaginais donc le parcours qu'avait subi mon grand-père qui était rescapé de génocide arménien. Et c'est vrai que j'ai eu un électrochoc à ce moment-là, c'est comme ça que j'ai voulu partir pour la première fois, Au départ, mon entourage, ma famille, a pensé que c'était juste un baby blues. Hein. Je venais d'accoucher de mon troisième enfant, il avait 3 ans. Et lorsque je suis partie, j'ai organisé cette mission pendant de nombreux mois. Lorsque je suis partie et que je suis revenue, mon projet était très précis, comme une espèce de discernement ou de voile qui s'est levé, où j'ai eu peut-être aussi, je pense, en tout cas c'est comme ça que j'interprète avec du recul, j'ai eu un appel de l'intérieur et de très loin. Et depuis, c'est vrai que cet engagement fait partie de ma vie, que j'ai restructuré, réorganisé mon temps, mes activités, mon travail, mon métier, pour pouvoir donner de plus en plus de place à cette ONG donc, qui est née petit à petit à ce moment-là. Et qui s'est développée puisque nous sommes dans plusieurs pays maintenant. Et c'est vrai que voilà, je pensais pas. Après, il y a des ce qu'on appelle espèces de rendez-vous dans la vie qui ne préviennent pas, qu'on peut choisir d'honorer ou de ne pas voir. Et moi, j'ai suivi cet appel. C'est vrai que ça a fait peur à mes proches au début. Et puis très rapidement, j'ai su les rassurer. Mais surtout, j'ai trouvé un équilibre. Et puis un espèce de lien entre le passé, mon passé, le fait que nous sommes tous le fruit de notre passé, mon présent, aussi mes aspirations, est-ce que je veux transmettre comme héritage à mes fils.
Je crois que vous parlez de vos fils. Je souhaite leur transmettre l'envie de se surpasser, les sensibiliser aux enjeux du monde et qu'ils ne soient pas centrés sur eux. On ne peut certes pas sauver la terre entière, mais je ne voudrais pas qu'ils restent de simples spectateurs face au malheur des autres. Je chéris le vœu, écrivez-vous, qu'ils soient capables de contribuer à la beauté du monde de la manière qu'ils le souhaitent.
Et ça, c'est depuis toujours. C'est vrai que je veille beaucoup à ça avec eux. Encore maintenant, ils sont grands, hein. Ils ont grandi. J'en ai 2 sur 3 qui vont à l'université même. Mais c'est vrai que j'y tiens, ça me tient à cœur. Et puis je me dis... Voilà, peut-être que dans l'héritage qu'ils portent, l'histoire aussi que nous portons, qui est celle de nos familles, nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, je serais extrêmement peinée s'ils devenaient des personnes auto-centrées, égoïstes, insensibles à ce qui se passe dans le monde. Je crois que c'est ce qui me ferait le plus de peine.
Revenons sur l'histoire de vos parents et grands-parents, qui est assez phénoménale. Sivas, je parlais de cette ville du cœur anatolien en Turquie aujourd'hui, l'ancienne Sébaste, une ville qui était fort renommée dans l'Antiquité, avec les martyrs de Sébaste, ces soldats romains qui se laissent mourir sur ce lac gelé, qui est une représentation qu'on voit dans beaucoup d'églises d'Orient, des parcours chaotiques, des parcours difficiles, le génocide de 1915, les exils, le retour à Sivas après au début de la période républicaine, puis le fait d'être nommé comme Gaour, je crois que c'est votre grand-père, Bogos, Paul, si je dis pas de bêtises,
votre père,
et ensuite finalement l'exil au Liban,
oui.
La guerre civile, les années 80.
Oui, ça fait beaucoup dans une vie. Ça fait beaucoup dans une vie. Et puis surtout au moment où j'ai démarré ce livre, je ne pensais pas découvrir tout ça. J'avais quelques éléments, des bribes d'informations par ma grand-mère, puisque c'est elle qui m'a élevée. Et puis après, il a fallu que j'aille tirer ce fil d'Ariane, parce que au départ, lorsque j'ai commencé à écrire ce livre, je le voyais différemment, plus sur l'actualité de l'Arménie, toutes les menaces qui pèsent sur elle, les enjeux auxquels elle doit faire face, il y avait de l'histoire, de la géopolitique, et puis l'éditeur m'a dit « Ouh là là, c'est pas ça qu'on veut, nous on veut un récit incarné, on veut que tu nous parles de ta famille », moi je n'avais rien, j'avais accès à rien, je ne connaissais rien, quasiment rien. Et en fait, tout ce travail de spéléologie presque, ça a été pendant plusieurs mois, parce qu'en plus j'ai eu un délai court pour l'écrire. Bon, ça a été quelques mois vraiment de recherche, d'archivage. Je suis allée sur des sites, j'ai retrouvé la maison des Jésuites, l'orphelinat, enfin tout ça. Il a fallu que je creuse pour les trouver aussi dans les registres des orphelins. Puis j'ai fait appel à des amis historiens. J'ai lu des quantités d'ouvrages et petit à petit, en questionnant des oncles, des cousins qui ont connu mon grand-père, j'ai tracé, j'ai retracé tout ce que j'ai pu. Et c'est vrai que c'est très très étrange, parce qu'au départ j'étais extrêmement triste. Plus j'avançais dans l'écriture, plus j'avais l'impression de déprimer et d'entrer, de tomber dans un puits sans fond. Et puis au fur et à mesure, je pensais, après avoir passé la première moitié, il y a quelque chose qui est né, une espèce de force qui a commencé à une transformation qui s'est faite. Et j'ai eu beaucoup plus de facilité à le finir qu'à le démarrer. Et puis surtout, toute la construction de l'histoire. Et puis de mettre ça en lien avec notre présent, le présent des Arméniens, le présent destin tragique des Arméniens d'Arménie. Et puis leur solitude qui n'est pas contemporaine. En fait, ils sont seuls depuis toujours. Ils ont été lâchés par les Russes depuis toujours. Ils ont été persécutés par les Turcs depuis toujours. Et qu'est-ce qu'on fait avec cet héritage-là? Et qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le transforme? Comment on évite de rester juste des victimes, en fait? Parce que les Arméniens sont un peuple digne. Et j'avais envie dans ce parcours chaotique, mais dans ces épreuves aussi, faire sortir toute cette lumière, cette dignité, cet amour que porte en lui le peuple arménien.
Un mot sur la partie française de votre famille, sur cette arrivée en France. Vous avez parlé vous-même d'intégration tout à l'heure. Quels sont les souvenirs familiaux que vous avez? Votre père arrive dans les années 50-60 à Paris, il est tailleur, donc il a plusieurs fois dû changer de métier, il a plusieurs fois tout perdu et tout recommencé. Quels souvenirs familiaux vous avez? Parce que vous n'étiez pas né encore, ou à peine, mais...
Mon père n'a pas fait d'études, parce que lorsqu'ils ont quitté Sivas pour Istanbul, il avait l'âge de quitter... Il a quitté le collège, et là, il fallait qu'il mange, qu'il vive, donc il balayait les magasins, les boutiques, il était coursier, et puis c'est comme ça qu'un couturier l'a pris sous son aile, lui a appris le métier de tailleur. Il est devenu après un grand couturier, il a fait beaucoup de choses très belles. Il s'est occupé même beaucoup de stars en France, Paul Naref, il a fait des costumes aux Beatles, enfin il a fait des choses dingues. Mais c'est vrai que quand il est arrivé en France et qu'il n'avait rien à part son dé à coudre, c'est vrai que moi l'image que j'ai, les images d'enfance que j'ai, c'est mon père qui comprend pas certains courriers qui arrivent à la maison, et je les traduis systématiquement, que c'est moi qui m'occupais de pas mal de documents administratifs, que d'accompagner chez le médecin pour traduire une consulte. Des choses simples, en fait, que vivent aujourd'hui toutes les familles avec des étrangers qui parlent pas la langue française. Je le vivais, et en même temps, mon père était toujours bien habillé, toujours digne, il disait toujours merci, bonjour. Il se levait quand le médecin entrait, ou quand il était dans une salle d'attente, il laissait toujours la place. C'était quelqu'un qui bousculait pas, qui parlait pas fort, qui était discret. Et il nous a enseigné, à être des gens dignes, à être respectueux, à dire merci, à remercier la France, à nous intégrer, pas faire de bêtises. Ces images-là que j'ai, c'est beaucoup... cette transmission dans des détails, dans des faits, des gestes simples, que nous soyons des personnes grandes, même sans rien dans la poche, en fait.
Vous apprenez le piano avec Monsieur Sarkissian.
Ouais.
Et il enseigne à vos fils aussi.
Oui, c'est le professeur de mes enfants depuis. Enfin, ça a été leur premier professeur jusqu'à maintenant. Oui.
Et votre père a tout de suite dit oui quand vous avez décidé d'apprendre la musique.
Tout de suite. Ouais. Il m'a rarement dit non, en fait.
Alors, une autre question maintenant sur l'Arménie. Je lis votre texte. Il était une fois au temps le plus ancien une montagne majestueuse appelée l'Ararat, où échoua l'arche de Noé après le grand déluge. C'est ici, selon la légende, que les Arméniens ont trouvé leur foyer. Eux-mêmes se nomment Aï, un nom qui remonte au légendaire Aïk, petit-fils de Japhet, fils de Noé. Ils ont ainsi peuplé les plaines fertiles au pied du mont Ararat, etc., etc. Vous avez aussi replongé dans l'histoire de votre part arménienne, dans votre arménité.
Oui, c'est vrai que lorsque j'ai fait des études à l'université, je suis partie, j'ai beaucoup d'amis de plein de cultures différentes, je me suis aussi un peu éloignée de cette arménité-là, peut-être qui m'étouffait, qui m'oppressait, ça me renvoyait aussi beaucoup au récit de ma grand-mère, à une espèce de mélancolie, de dépression qu'il y avait. Donc c'est vrai que j'étais très très... J'ai voyagé vers d'autres cultures, d'autres peuples, d'autres langues, et c'est vrai que malheureusement, je veux pas dire malheureusement ni heureusement, mais en tout cas avec le drame qui s'est abattu sur le peuple arménien, et même avant, quelques années avant déjà, j'y retournais beaucoup. Et c'est vrai que oui, c'est un héritage très fort que nous portons. Et puis surtout, voilà, nous sommes le premier royaume chrétien au monde, et aujourd'hui, notre existence est menacée. On se demande même vraiment si l'Arménie va rester ou disparaître des cartes demain. C'est un sujet qui nous préoccupe. Et c'est vrai qu'en écrivant ce livre, je pensais aussi à tous ces Français qui ont des origines arméniennes, toute cette diaspora qui, dans sa multiculturalité, en fait, peut aussi jouer un rôle, et a aussi un rôle à jouer, parce qu'aujourd'hui, l'Arménie est un tout petit bout de territoire entouré d'ennemis mortels qui ne veulent que la dépecer et la dévitaliser et chasser donc ces Arméniens, pour reprendre l'expression d'Aliyev, comme des chiens de leur terre ancestrale. C'est vrai que oui, de replonger dans cette poésie, dans la lecture aussi de textes anciens, de livres, de même dans la liturgie ou dans les chants, dans la poésie, dans des livres de philosophie, de littérature arménienne, il y a à chaque fois plein de références sur cette histoire unique, cette richesse unique qu'a le peuple arménien dans cette région du monde qui a été en permanence envahie, ce qu'appelle Monsieur Bruno ce peuple monde de la longue durée, en fait, ces Arméniens qui sont parmi ces pays qui ont été envahis des quantités de voix, les seuls qui ont maintenu leur langue, leur culture intacte malgré les invasions.
Une vie démocratique aussi, on pourrait le rappeler.
Et qui se bat aujourd'hui pour sa survie. Non, je trouvais ça vraiment... j'ai pris beaucoup de plaisir, même si ça a été dur, comme je vous dis au début, de recoller les morceaux du puzzle. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre.
Est-ce que vous avez envie qu'il soit lu par des Arméniens de la diaspora, peut-être pour que vous-même vous puissiez inspirer d'autres parcours? N'est-ce pas un message aussi pour les jeunes, ou moins jeunes, de se mobiliser justement, oui, dans un temps compliqué où toutes les énergies ont besoin d'être mobilisées?
Mais l'histoire et le temps nous ont prouvé une chose, c'est qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes. Et donc, effectivement, mobiliser des Français d'origine arménienne ou la diaspora du monde entier, en fait, elle est essentielle si on veut aujourd'hui rassembler toute notre énergie et nos forces pour essayer de lutter contre ce nettoyage ethnique qui est encore en cours. On a perdu l'Artsakh, mais ce que veulent la Turquie d'Erdogan et le régime d'Aliyev en Azerbaïdjan, ce qu'ils veulent, c'est complètement démanteler l'Arménie pour en faire... C'est le projet panturc pour d'abord réunir sous une même égide tous ces peuples turcophones musulmans, mais aussi devenir ces routes de la soie qui rendraient, en fait, qui donneraient une puissance aux portes de l'Europe, piloté par la Turquie d'Erdogan, qui serait un peu le cerveau, en fait, de ce continent pan-turc dans lequel l'Arménie n'a pas sa place. C'est une espèce d'anomalie chrétienne, le caillou dans la chaussure qu'il faut enlever. Et aujourd'hui, qui peut empêcher ça? Qui peut sauver l'Arménie, si ce n'est pas nous-mêmes d'abord?
Vous êtes thérapeute? Vous-même, vous vous êtes engagé dans votre ONG, c'est vous-même qui l'avez créé. De quel profil vous avez besoin pour vous accompagner dans votre œuvre?
Là, pour l'instant, dans les cliniques mobiles, parce qu'en fait, on a développé des cliniques mobiles qui est un concept, c'est un peu notre ADN. On permet ainsi aux réfugiés, aux rescapés de guerre, d'avoir accès à des soins, même s'ils n'ont plus de toit, s'ils ont été délocalisés, qu'ils vivent dans des espèces de squats ou dans des logements... qui sont des logements d'appoint. La clinique mobile permet justement, c'est des espèces de camions que nous aménageons en hôpital ambulant. On fait ça aussi avec des ambulances si jamais les régions sont montagneuses et difficiles d'accès. La clinique mobile, elle permet d'offrir des soins, on fait ça gratuitement bien évidemment, et d'ajuster notre offre à la demande. Et donc, selon les régions, selon les pays, selon les besoins sur place, nous-mêmes, nous n'avons pas les mêmes besoins. Là, on a deux cliniques mobiles en Arménie avec des médecins qui sont des médecins de ville classiques, puisque dans les régions frontalières en Arménie, Il y a des quantités de villages qui sont sous espèce de ligne de front. Des milliers de personnes vivent dans ce qu'on appelle les déserts médicaux, où finalement, pour pouvoir, si jamais vous êtes malade, avoir accès à un médecin ou aller à l'hôpital, il faut rouler une heure. Alors quand vous êtes une famille pauvre, que vous n'avez pas de voiture, que c'est la nuit ou je ne sais quoi, l'accès à la santé reste un véritable handicap et un problème. Et ça fait partie du process de nettoyage ethnique. C'est-à-dire que dans les villages, quand vous n'avez plus de soins, quand on n'avait plus d'accès aux soins, qu'il n'y a plus d'école, bah, petit à petit, les villages deviennent désertiques. Et en fait, nous, avec nos cliniques mobiles, nous allons sur ces villages frontaliers. On a une trentaine de villages comme ça. Nos cliniques mobiles sillonnent les villages frontaliers. Et selon les besoins identifiés en collaboration avec les préfets de région, les maires, les directeurs d'hôpitaux qui se trouvent à une heure de route, comme je vous le disais, on identifie des besoins très précis. S'il y a plus de femmes, plus d'hommes, plus de personnes âgées, plus d'enfants, et on recrute en fonction et on fait des appels et on recrute en fonction. Là, actuellement, notre priorité, c'est plus de lever des fonds, puisque dans ces villages-là, si vous ne parlez pas, je prends l'exemple de l'Arménie, mais c'est pareil pour l'Éthiopie, c'est pareil pour le Liban, si vous ne parlez pas la langue du pays, en fait tout devient beaucoup plus lourd administrativement, c'est-à-dire qu'il faut un interprète, il faut une voiture, il faut trouver un logement, il faut tout ceci, tout cela qui devient compliqué. Donc en fait les volontaires, les bénévoles que nous avons qui viennent de France vers les pays-là sont souvent des formateurs. On a beaucoup fait ça sur la prise en charge du stress post-traumatique, sur certaines techniques de chirurgie, en ophtalmologie. On a fait ça avec des formateurs français. Mais sur place, nous, on préfère recruter parmi les réfugiés. On leur offre un emploi, ils travaillent pour nous, ils reçoivent, ils ont une source de revenus qui leur permet de retrouver leur dignité, de nourrir leurs enfants, et ils bossent pour nous à temps plein. Et c'est ce qui nous permet pour nous, en tout cas c'est plus simple, plus commode, plus pratique et plus pragmatique, pouvoir donner des soins avec des personnes qui connaissent la culture, la langue, qui connaissent les villages, qui connaissent les mêmes problématiques. Ils connaissent ces problématiques puisqu'ils vivent les mêmes dans leur quotidien. Et donc c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'appels aux dons. On a besoin, ça nous permet de financer des soins, ça nous permet de financer des salaires, ça nous permet de financer des médicaments, ça nous permet de financer l'essence pour les cliniques mobiles. Et tout ça c'est très très important pour nous.
Élise Bogossian, je vous remercie infiniment d'être venue à notre micro. Nous allons mettre les références de l'association sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les Sacrifiés au cœur de la tragédie arménienne, aux éditions Plon. Merci encore.
Merci Sébastien.
Je remercie François Connac pour la réalisation, Claire Poinsignon et Benjamin Vignal pour la technique. Nous retrouvons maintenant le rendez-vous protestant. Soleil, bon dimanche.